Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Après la victoire, le sacre, tournée en bus pour les Bleus à Paris, des Champs-Élysées à l'étoile, ou plutôt aux deux étoiles, les Bleus perchés sur le toit du monde. On ne vous refera pas le film dans Accent d'Europe, on a juste sélectionné deux images en marge de la performance sportive. Celle de Kylian Mbappé tapant dans la main d'une opposante des Pussy Riot, ayant fait irruption sur la pelouse pour interrompre brièvement le match. Ou cette autre photo d'une fan zone vide avec cette légende « La liberté est finie, bienvenue dans la vraie Russie ». Deux photos qui font bien sûr référence à la situation des droits de l'homme à Moscou, car derrière cette formidable liesse mondiale, il y a bien sûr une opération de communication bien orchestrée par Vladimir Poutine et le sort d'un homme, Oleg Sentsov, qui se meurt dans une colonie pénitentiaire du nord de la Russie. Le cinéaste ukrainien engagé contre l'annexion de la Crimée est en grève de la faim. Il a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty. Pour l'instant, aucune pression internationale n'a fait plier Poutine. Et en Russie, le cas Sentsov est quasiment tabou. À Moscou, le reportage de Paul Gogou.
Il s'agit d'un extrait de l'émission Le Temps nous le dira, en partie consacré à Oleg Sentsov. Cette émission, pourtant diffusée sur Pierre Vicanal, chaîne proche du pouvoir, fait figure d'exception, car la situation du réalisateur ukrainien est très peu abordée dans les médias nationaux russes. Accusé d'avoir fomenté un attentat en Crimée annexée, il est systématiquement présenté par les médias russes comme un terroriste. Quand il est question du réalisateur ukrainien, c'est sous le prisme des relations internationales comme un pion mis au même rang que les histoires de gaz ou de relations avec les États-Unis et non celui des droits de l'homme. Pendant la Coupe du Monde, il suffisait d'aller poser quelques questions très simples sur Oleg Sentsov dans la fan zone de Moscou pour comprendre qu'auprès des citoyens russes, cette information n'est pas la priorité.
Non, Oleg Sentsov, non. T'en as entendu parler, toi ? Non, nous ne savons pas qui c'est. Je pense que le sport doit rester apolitique.
De leur côté, Ruslan et Anya ne voulaient pas non plus en entendre parler.
Non, je ne connais pas du tout, je ne m'intéresse pas du tout à la politique en ce moment. Je ne m'intéresse qu'à l'instant présent. Je veux que ça soit la fête.
On veut du foot, seulement du foot.
Oui, ça sera la limite d'une discussion sur la politique avec nous.
Et quand certains concédaient timidement avoir déjà entendu parler du réalisateur, c'était pour mieux avouer leur impuissance.
Oui, bien sûr que j'en ai entendu parler. Je me sens assez proche de l'opposition. Je connais toute l'histoire d'Oleg Sentsov. C'est un Ukrainien qui est en ce moment en grève de la faim, accusé de terrorisme, d'extrémisme. J'espère vraiment que sa situation va évoluer et que son avenir sera différent, même si je n'y crois pas vraiment pour le moment.
Maria Shuprinskaya est actrice pour le théâtre Doc. Cette petite scène appréciée des militants d'opposition est connue pour ses spectacles engagés qui déplaisent fortement aux autorités. Le 30 juin dernier, les acteurs ont joué un spectacle en soutien à Oleg Sentsov dans les locaux de l'Organisation de défense des droits de l'homme Mémorial. Au même moment, la police débarquait dans les locaux du théâtre en espérant faire annuler la représentation, en vain. Si la Coupe du Monde a donné l'image d'une Russie accueillante, à quelques rues de l'hypercentre de Moscou, les policiers du centre et chargés de surveiller les mouvements extrémistes n'ont pas changé leurs habitudes, bien au contraire. Mardi dernier, les membres de la troupe étaient attendus à la sortie de la salle.
Un homme en uniforme de police et cinq autres habillés en noir nous attendaient. Ils nous ont demandé de les suivre rapidement. Ils ont directement eu une attitude agressive. Ils ont pris mon téléphone, ils ont vu les photos de notre opération Free Sentsov organisée auprès des supporters. Il y avait une photo de moi avec un tract. L'homme m'a dit « Alors ma petite Macha, tu l'aimes bien Sentsov ? Tu aimes distribuer des tracts ?» Ce sont des opérations spéciales qu'ils montent. Ils m'ont dit de considérer que j'étais prévenue, que c'était un signal.
Militante engagée en faveur des droits de l'homme reconnue en Russie, Zoya Svetova explique pourquoi, selon elle, il est si difficile de parler d'Oleg Sentsov.
Oleg Sentsov, il est condamné à 20 ans pour avoir organisé un acte terroriste en Crimée, donc il est considéré comme un terroriste. C'est pour ça la police russe ne veut pas que les gens le défendent ouvertement. Et que l'information sur lui circule plus librement en Russie. C'est pour ça, que toutes les actions sont coupées.
Cette militante suit la situation de près. Elle a pu parler à plusieurs reprises aux prisonniers ukrainiens depuis le début de sa détention, ce qui lui est désormais interdit depuis quelques semaines.
Oleg Sentsov, elle se trouve dans une colonie pénitentiaire du régime strict au pôle nord de la Russie. Lui, il fait la grève de faim de 61 journées et il se trouve sous le contrôle des médecins, mais sa santé dégrade sérieusement. Sa cousine qui est allée les visiter, elle l'avait rencontré il y a une semaine et elle a dit qu'il grille de 15 kilos, qu'il est très fatigué. Il a l'idée de continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ses revendications soient réalisées. L'action de tous les prisonniers politiques ukrainiens qui se trouvent dans les prisons de Russie.
Avec la fin de la Coupe du Monde, les militants voient s'envoler toute perspective de libération prochaine du militant ukrainien. Seul espoir pour ses proches que le Kremlin accepte de gracier ou d'échanger le réalisateur contre des prisonniers russes retenus en Ukraine.
She walked out of the house. Then I heard an explosion, and I knew it was a car bomb straight away. I saw the logo of Peugeot, and at that moment I thought, shit.
Jan Kuciak en Slovaquie, Daphne Caruana Galizia à Malte, deux journalistes tués sur le sol européen en raison de leurs enquêtes dérangeantes pour les pouvoirs en place et le crime organisé. À Malte, la journaliste travaillait sur l'implication de plusieurs personnalités dans le scandale des Panama Papers. Elle a été assassinée dans l'explosion de sa voiture piégée. C'était il y a 9 mois. Depuis, un collectif international de 45 journalistes issus de 18 médias a repris l'énorme masse de documents laissés par l'enquêtrice. En attendant que la vérité soit faite, comment les journalistes et les groupes d'activistes gèrent-ils la situation sur place? C'est le reportage de Laurent Berthaud.
Dans la vieille ville de La Valette, les touristes flânent insouciants rue de la République jusqu'au moment où ils découvrent le mémorial éphémère dressé à la mémoire de Daphne Caruana Galizia. Une photo en noir et blanc de la journaliste, des fleurs, des explications en 4 langues et une banderole « Qui a tué Daphne ?». Une sacrée surprise pour ces touristes français.
Moi, je pensais que c'était en Sicile que ce genre de choses se passaient, mais d'entendre ça ici, oui, ça m'a...
Surprenant, ça choque en fait.
Ce lundi 16 juillet 2018, comme chaque mois depuis octobre, le groupe Occupy Justice Malta organisait un rassemblement devant le mémorial, un groupe constitué par des femmes en colère quelques jours après la mort de la journaliste. Ce groupe ne souhaite s'exprimer que collectivement, sans porte-parole désigné. J'ai donc rencontré Pia, Louiselle et Catherine.
Ce groupe a été créé par des femmes d'abord parce que Daphne était une femme. Elle était seule et elle a été particulièrement visée en tant que femme. Je ne pense pas qu'un homme aurait été autant attaqué. Elle a été traitée de sorcière, elle a été déshumanisée. Cette île est particulièrement misogyne. Ce groupe a également été créé par des femmes car nous, les femmes, nous sommes fortes et nous arrivons souvent à nos fins. Et cette île ne sait pas comment gérer un groupe de femmes qui hurlent. Et du coup, je pense que nous sommes plus efficaces.
This island doesn't know what to do with a group of women who are yelling, and so I think we are more effective that way.
Occupy Justice, qui aujourd'hui encore attend des réponses de la part du gouvernement maltais après la mort de la journaliste et ses révélations, reprises et complétées par le projet Daphne.
After that, nothing happened.
Après cela, il ne s'est rien passé. Personne n'a démissionné, personne n'a endossé la responsabilité politique de cette attaque affreuse. C'est incroyable. Quand en Slovaquie la même chose se produit, vous avez au moins le ministre de la Culture qui démissionne. Ici, rien. Nous avons deux personnes clés qui ont été mentionnées dans les Panama Papers. L'un d'eux est le ministre du Tourisme, Konrad Mizzi, et l'autre est Keith Chambry, le directeur du cabinet du Premier ministre. Et aucun n'a démissionné. Donc, dans ce pays, c'est très clair. L'état de droit n'existe plus. Les institutions ont été prises en otage. La police ne fait pas son travail et ne mène aucune enquête. C'est l'anarchie.
Qu'en est-il maintenant des journalistes? Peuvent-ils continuer à exercer leur activité comme avant? L'organisation Reporters sans frontières évoque un futur incertain pour le journalisme d'investigation à Malte. RSF fait état de pressions exercées par la justice et la police maltaise pour que des journalistes révèlent leurs sources. Sur place, la parole est moins alarmiste, publiquement du moins. Écoutez ce qu'on dit Herman Greck, rédacteur en chef pour l'édition en ligne du Times of Malta.
Non, je ne peux pas dire que les choses aient vraiment changé. En réalité, Malte reste un pays très sûr pour exercer le métier de journaliste. Si l'on parle de la sécurité des journalistes, de leur bien-être, on ne peut pas dire que les choses aient changé, non.
Vous continuez à enquêter sur les mêmes sujets qu'avant ?
Je dirais même plus. On mène nos enquêtes et nos investigations sur les cas de corruption potentielle. Je ne dirais pas que le meurtre de Daphné ait eu un quelconque impact sur la façon dont nous menons nos enquêtes.
Et est-ce que vous travaillez comme avant ?
Totally. Absolument. Je pense que le plus grand problème auquel nous devons faire face, c'est que nous travaillons dans un pays si petit que le gouvernement nous ignore. Par exemple, on envoie des questions aux autorités sur des cas possibles de corruption. On écrit à la police pour avoir des renseignements sur telle ou telle enquête, et on n'a aucune réponse. C'est un danger potentiel pour la liberté de la presse.
Liberté de la presse, liberté d'expression, sur le papier ces droits sont respectés, mais dans la pratique, enquêter sur les affaires, mais aussi critiquer le pouvoir en place et dénoncer les affaires de corruption n'est pas si facile. Le collectif Occupy Justice peut en témoigner, victime d'un harcèlement permanent.
Sur Facebook, il y a des groupes qui appellent à la haine. Ils nous agressent, ils nous insultent violemment, des insultes sexuelles aussi. Ils ont publié nos photos, nos adresses, le numéro de nos cartes d'identité, de nos plaques d'immatriculation. On reçoit aussi des mails de menaces. On a dénombré 6 groupes différents regroupant des milliers de personnes, y compris des hommes politiques, certains très haut placés. Tout le monde sait que ça existe, mais on ne peut rien faire contre, la police ne réagit pas à nos plaintes. Toute cette violence, alors qu'on se contente de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors imaginez quelqu'un qui voudrait communiquer une information sur les dossiers en cours. On est dans une situation d'omerta, les gens qui sauraient quelque chose ne diront rien.
Fin avril, juste après les révélations du projet Daphné, des milliers de personnes manifestaient dans les rues de La Valette à l'appel de 2 collectifs. Aujourd'hui, Occupy Justice compte sur la presse internationale pour relayer son message.
This is our nation, this is our home, and we are the people. We expect better, we deserve better, we demand better.
L'Afrique était avant, ou après. Les grandes nations s'y taillaient des empires à coups de sabre, parfois à coups de fusil, et les conquérants...
Une bande dessinée qui résonne étonnamment avec des affaires d'aujourd'hui et ce qu'on appelle la France-Afrique. Congo 1905, le rapport Brazza de Tristan Thil et du dessinateur Vincent Bailly raconte un épisode méconnu du colonialisme. En 1905, le gouvernement français veut se dédouaner des graves accusations concernant des atrocités commises dans le vaste territoire qu'on nommait alors Congo. L'explorateur Pierre Savornian de Brazza est envoyé pour faire un rapport, mais ses conclusions se révèlent accablantes, comme l'explique à Catherine Roland, Tristan Thil.
Il y a beaucoup de choses qui étaient très dérangeantes pour la République à cette époque-là. Les assassinats de masse, le recours à l'esclavage illégal. C'est en gros cette situation indigne que décrit Brazza dans son rapport, qui avait été commandé à l'époque au départ suite à un scandale qui avait éclaté en février 1905. Des exactions commises par des administrateurs coloniaux en actuelle Centrafrique, qui faisaient partie de l'Afrique équatoriale française, du Congo français. Il s'agit en fait d'un meurtre assez sadique d'un noir commis par 2 administrateurs coloniaux qui sont Go et Toké. Suite à ça, l'opinion en France est assez choquée de découvrir quelles horreurs peuvent se livrer les Français là-bas. Et il va y avoir une espèce d'agitation à la fois par la presse, les députés à l'Assemblée nationale, etc., qui vont demander une mission d'enquête. Et donc ils font appel à un des personnages importants de l'histoire coloniale française, puisqu'il était explorateur, Pierre Savornian de Brazza, quelqu'un d'humaniste, de pacifiste, dont la réputation est quasiment intouchable. Donc en faisant appel à lui, le gouvernement espère que le rapport qu'il fera sera bon pour le gouvernement, et il sera indiscutable puisque venant de quelqu'un comme lui, quoi.
Alors, il s'agit aussi peut-être de se comparer au Congo belge, puisque là-bas aussi se commet énormément d'exactions. En fait, il y a notamment l'affaire qu'on appelle celle du caoutchouc rouge.
Un journaliste anglais qui s'appelle Edmund Morel, sous le nom de caoutchouc rouge, révèle en fait les assassinats et les crimes qui sont commis pour l'acheminement du caoutchouc vers l'Europe. Ce qu'espèrent les Français à l'époque, c'est de pouvoir utiliser un des articles de l'acte général de Berlin qui a été signé en 1885 entre les différentes grandes puissances pour se partager l'Afrique, qui prévoit notamment qu'une colonie qui serait mal gérée et où il y aurait des abus sur les populations avérées pourrait être préemptée par une autre puissance. Il se trouve que l'autre puissance, c'est la France, et elle espère bien mettre la main sur la rive gauche du Congo si on venait à prouver qu'effectivement le Congo français est exemplaire et le Congo belge meurtrier. Et c'est pour ça qu'il demande à Brazza de faire une étude comparée du Congo belge du Congo français. Brazza, en arrivant sur place, se rend compte qu'évidemment la situation n'est absolument pas celle-ci, que le Congo français commet tout autant d'atrocités, et décide de faire ce rapport qui sera censuré du coup par la suite.
Ce qui est mis en évidence aussi à travers ce rapport et à travers votre histoire, c'est que l'Europe continue de s'industrialiser à toute vitesse et qu'elle a besoin de ces matières premières, et peu importe la façon dont elle les obtient.
Oui, tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs ce qui se passera notamment au Congo belge à l'époque. La forte demande d'un seul coup qui augmente pour le caoutchouc et qui va en fait provoquer sur ces territoires-là l'exploitation brutale. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir recours au travail forcé et imposer une cadence insupportable à ce pays, quoi.
Le sous-titre de la bande dessinée, c'est « Le premier secret d'État de la France-Afrique ». Il y a peut-être une résonance actuelle.
Le rapport Brazza montre bien comment les bases qui sont jetées en fait de ce qui va donner la France-Afrique, c'est-à-dire ce trio qui fonctionne assez bien entre forces armées, État et intérêts privés. Et une des raisons pour se lancer dans l'écriture de ce récit, c'est qu'à l'époque, quand on a découvert le rapport Brazza, on parlait effectivement de compagnies concessionnaires, de matières premières comme le caoutchouc, mais qu'on ne pouvait pas ne pas penser aux résonances actuelles de ce genre de système en changeant tout simplement le nom des matières premières et des entreprises.
Par exemple, on pense à l'uranium et à Areva.
On pense à l'uranium et à Areva, on peut penser à Total et le pétrole, on peut penser à Bolloré, on peut penser au coltan, on peut penser à tous ces métaux rares qui sont dans nos portables et nos ordinateurs. Il y a tout un tas de richesses qui sont en Afrique et qui sont encore aujourd'hui de grands enjeux pour de grandes multinationales, et les intérêts français sont toujours là-bas.
Congo 1905, le rapport Brazza est publié aux éditions Futuropolis. Partir en vacances pendant les mois d'été, beaucoup d'Européens en rêvent. En Bosnie, un pays touché de plein fouet par la crise, partir en villégiature est un luxe, Simon Rico.
Dans une Bosnie-Herzégovine où le chômage frappe 4 actifs sur 10, ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir s'offrir des vacances au soleil. La plupart des Bosniens partiront donc en voiture ou en bus vers le littoral adriatique, en Croatie ou au Monténégro, une habitude qui date de l'époque yougoslave. Split et Dubrovnik ont toujours la cote, mais la ville balnéaire de Makarska, très prisée au temps du maréchal Tito, revient à la mode. Quant aux moins fortunés, ils privilégieront le petit port de Neum, seul accès à la mer de la Bosnie-Herzégovine. À moins qu'ils ne partent à la découverte de l'Albanie, dont les tarifs sont particulièrement attractifs. Pour un peu plus de 200 euros, les touristes ont droit à 7 nuits dans un hôtel 4 étoiles au bord de la mer, petit déjeuner et tours guidés inclus. Pour attirer les clients et maintenir leur business à flot, les agences de voyage locales ont aussi été plus que jamais obligées de casser les prix et de proposer des facilités de paiement via des crédits ou même des mensualités. Les offres promotionnelles vers la Turquie, plombées par les attentats, attirent aussi de nombreux Bosniens, d'autant plus que Sarajevo entretient d'étroits liens historiques avec le pays dont ils partagent un passé commun, l'Empire ottoman. Les demandes ont doublé depuis l'année dernière, confirme Muammer Ludvic de l'agence Centro Tours. Quant à son confrère Semir Terzic, qui dirige Ventura Travel, il assure de son côté recevoir beaucoup de demandes pour des destinations lointaines comme les Maldives, les Seychelles et le Sri Lanka, en raison des prix cassés qui y sont pratiqués. S'il le faut, ils paieront en plusieurs fois, mais les Bosniens les plus privilégiés parviendront bien cette année encore à s'offrir un séjour au soleil, quitte à se serrer fort la ceinture jusqu'à l'année prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.